Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h.
Agnès Bonfillon, Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Agnès Bonfillon.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ce n'est pas fini, hein, ça fait que commencer même mes premières victoires pour la majorité. Les députés viennent tout juste en commission de voter contre l'abrogation de la retraite à 64 ans. Jordan Bardella demande des excuses à Elisabeth Borne. Il juge sa déclaration sur le Rassemblement national héritier de Pétain inqualifiable. Beaucoup de questions après la condamnation hier de Mohamed Awas, le pilier du 15 de France, écope d'un an de prison ferme pour violence conjugale, mais sans maintien en détention. Son épouse est venue le soutenir à l'audience. Vous entendrez son témoignage juste après ce journal. Et puis direction Roland-Garros, bien évidemment comme tous les jours. Qui a dit que les Français ne faisaient pas rêver? On en parlait à l'instant avec Julien Courbet. Un moment hors du temps hier soir grâce à Gaël, mon fils. Et ce n'était que le premier tour. La question du jour sur RTL à l'occasion de la journée mondiale contre le tabac. Faut-il continuer d'augmenter le prix du paquet de cigarettes?
On en parlera évidemment à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. 3210 pour dialoguer. Et bien sûr, cette journée sans tabac. Appelez-nous si vous ne fumez pas aujourd'hui, par exemple.
Travailler à la fois son physique et son mental. De plus en plus de femmes se mettent au sport de combat, dont la boxe. On montera sur le ring tout à l'heure dans C'est votre vie. À 12h50, invité exceptionnel dans ce studio avec nous, Riyad Satouf viendra nous présenter le 8e album des Cahiers d'Esther, cette petite fille qu'il suit depuis qu'elle a 9 ans, aujourd'hui elle en a 17, et sa vie, ses réflexions, ses interrogations passionnent et font sourire.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Un boulanger au four et au moulin, littéralement. Un professionnel cultive lui-même son blé avant de faire son pain. En conséquence, il n'a pas augmenté ses prix.
Et on se retrouve donc au 3210 tout à l'heure pour tous ces sujets.
Avant cela, la météo, c'est avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
En un mot, ce qui nous attend cet après-midi, Peggy?
Il sera encore orageux sur toute la moitié sud.
Merci Peggy. RTL Midi. Ne pas attaquer l'extrême droite avec des arguments moraux. Hier, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a recadré sa première ministre. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne avait déclaré que le Rassemblement national était l'héritier de Pétain. Ce qui fait bondir Jordan Bardella, le président du RN. Il était l'invité de RTL ce matin.
Je pense que quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Je pense que ces propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Et moi, je n'accepte pas de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ces propos ont choqué beaucoup de Français, à tel point que le président de la République a été amené à la recadrer.
La Première ministre qui par ailleurs fustige les oppositions concernant la proposition de loi du groupe Liot.
Vous savez, ce texte qui vise à abroger la réforme des retraites, il est débattu depuis ce matin en commission des affaires sociales à l'Assemblée. Et première victoire pour la majorité, Marie Mollet.
Oui, dans le chaudron de la salle de la commission, pleine à craquer avec des députés debout faute de place, les élus viennent de voter et ils ont supprimé l'article 1 de cette proposition. Et ça, effectivement, c'est une victoire symbolique pour la majorité. Car l'article 1, c'était le nerf de la guerre, c'est celui qui vise à abroger l'âge de départ à 64 ans, donc à revenir aux 62 ans. Alors est-ce que ça veut dire que cette proposition de loi Liot est complètement enterrée? Non, hein, ce n'est qu'une première étape, puisque le texte va passer en séance dans l'hémicycle le 8 juin, donc on est au début. Mais la majorité n'a qu'un objectif en tête, torpiller cette proposition de loi, éviter un vote à l'Assemblée à tout prix. Et à ce jeu-là, tous les coups sont permis, toutes les bottes secrètes du règlement vont être utilisées. La majorité veut faire valoir notamment l'irrecevabilité, hein, c'est l'interdiction pour les députés de créer de la dépense avec une loi. Mais l'opposition a aussi des armes à sa disposition, notamment l'obstruction, encore une fois. D'ici là, l'examen du texte va se poursuivre en commission.
Pardonnez-moi Marie, mais je ne suis pas un spécialiste. Oui. Ce vote, donc ce texte, dites-vous, sera quand même présenté tel qu'il devait être présenté à l'Assemblée?
Alors écoutez, ça va être la grande question. Et là, on rentre un peu dans la technicité, dans la tambouille parlementaire.
Parce qu'à quoi sert ce vote autrement ce matin? Je ne comprends pas en fait.
En fait, si effectivement... Enfin, là donc c'est effectivement, il y a une première victoire symbolique. Le but, c'est de préparer le terrain pour que Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, puisse effectivement poser une irrecevabilité sur ce texte. On rentre vraiment dans de la technique parlementaire.
D'accord.
Voilà. Et s'il y a effectivement clairement une obstruction. Alors, le texte, dans sa version initiale, sera présenté à l'Assemblée. Et là, ça ouvre une possibilité pour un vote. Donc, on est vraiment là, pardon, je rentre dans la technicité, mais c'est ça, c'est les bottes secrètes de l'Assemblée. Et les députés en usent et en abusent.
Le texte, en tout cas, doit être débattu puis soumis au vote le 8 juin. On le rappelle, merci Marie Mollet du service politique de RTL. L'inflation commence enfin à ralentir selon l'INSEE. En revanche, la consommation des ménages, elle, est toujours en baisse selon les mêmes données. Nous y reviendrons en détail avec Martial You dans le journal de 12h30.
Alerte au pollen, 90 départements de France métropolitaine sont concernés.
Risque rouge pour tout le monde, effectivement. Seuls 6 départements de l'Ouest y échappent. Mais alors, comment une alerte est-elle déclenchée? C'est ce que les pollinariums sentinelles font, en fait, comme celui qui est situé dans le jardin des plantes à Nantes. Une vingtaine d'espèces allergisantes sont scrutées tous les jours. Et elles servent finalement de référence, Nicolas Bobby.
Le pollinarium de Nantes ressemble à un petit potager. Dominique Chevalier, médecin allergologue.
On va recréer une petite nature qui sera le plus proche possible de la nature et qui sera en mesure de nous donner les éléments sur ce qui se passe en nature et savoir exactement à quel moment les premiers pollens sont émis.
Botaniste, William surveille quotidiennement une vingtaine d'espèces allergisantes.
La flouve odorante, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, le dactyle. On a les arbres, on a les aulnes, les bouleaux, les frênes, les chêne. Ben on voit l'évolution de la fleur et on voit qu'il y a le pollen qui commence à se libérer, je le signale.
L'alerte pollen est déclenchée sur Internet. Cette maman et son fils de 14 ans sont abonnés à la lettre d'information.
Ça ne change pas grand-chose parce que mon fils est une vraie alerte sur pattes.
Il y a certaines périodes de l'année où j'ai le nez vraiment pris. Je suis obligée de respirer par la bouche. C'est pénible, ça fatigue beaucoup.
Je fais des crises, je peux éternuer 40 fois en 3 minutes.
Informés rapidement de la fin d'émission des pollens, ils peuvent stopper leur médicament.
Le reportage de Nicolas Bobby à Nantes pour RTL.
RTL, Roland Garros 2023.
Roland Garros by night.
Oui, exactement. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour le double mixte.
Certaines rencontres sont en cours, mais impossible effectivement de ne pas revenir sur cette soirée magique hier, un moment hors du temps offert par Gaël, mon fils.
Oui, vous entendez cette Marseillaise, les spectateurs qui arrivent sur ce court ce matin n'imaginent pas ce qui s'est passé ici cette nuit. Des gens hurlant, debout, entre chaque point, une fanfare dans les tribunes pour donner le tempo. En 40 ans de Roland-Garros, j'avoue que je n'ai jamais vu une telle communion. Alors, bien sûr, il faut relativiser. L'Argentin Sébastien Baez n'est que 42e mondial. Mais là, on ne parle pas d'enjeu, mais d'aventure humaine, de dépassement de soi. Revenir de 4-0 dans le 5e après avoir concédé la 4e manche 6-1. C'est un truc de fou. La foule, d'ailleurs, après coup, avait des étoiles dans les yeux.
Un spectacle incroyable. Et puis, c'est surtout à la fin où il explique qu'il a aussi fait ça grâce à sa fille, pour sa fille, parce qu'il est papa et qu'il n'avait jamais gagné en tant que papa. Donc, c'est super beau. Donc, un très, très beau spectacle. Bravo à lui et merci à lui. Bravo, Gaël.
Exceptionnel, le match. Il était magnifique. Il était choquant. Il nous a fait rêver. Il m'a donné les larmes aux yeux.
Gaël, mon fils, ne gagnera pas Roland-Garros, mais dans son histoire, dans notre histoire, eh bien, cette soirée restera gravée. Gaël, mon fils.
C'est un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois, pas du tout à ça. J'ai réussi mentalement à me dire, non, mais t'inquiète, je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième, quoi, tu vois. Non, mais tu t'imagines le malade que je suis. Non, mais tu vois, je te dis, c'est ce que je me suis quand même dit, quoi.
C'est ce qu'il s'est dit. La femme de Gaël, Elina Svitolina, joue en ce moment même son deuxième tour. Gaël n'est pas là, il dort encore.
Et elle était là hier soir, sa femme, à 1h du matin.
Elle n'était pas là, non, elle préparait, elle a sûrement vécu cet exploit à distance parce qu'elle préparait son deuxième tour. Elle joue en ce moment d'ailleurs, elle est mal embarquée, elle est menée 6-2 dans la première manche.
On reviendra sur les matchs en cours avec vous à 12h30, Jean-Michel, merci.
À tout à l'heure.
La météo avec vous, Peggy Broche. Comme ces derniers jours, eh bien, ça tourne à l'orage dans le sud.
Oui, Agnès, c'est vrai qu'on a encore une situation bloquée avec des orages qui arrivent, qui ont déjà commencé hein, d'ailleurs sur les Pyrénées-Orientales. On va les retrouver sur tout le sud de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et la région PACA. Le pourtour méditerranéen sera épargné. On aura des orages également sur la Corse. Des orages parfois accompagnés de grêle et de forts cumuls de pluie, mais au nord d'une ligne Bordeaux-Mulhouse, là, on a retrouvé du soleil. On retrouve du soleil comme les jours précédents avec toujours ce petit vent de nord-est et tout ça sous des températures qui grimpent jusqu'à 30 degrés encore aujourd'hui à Bordeaux, 28 à Paris, 27 à Orléans, 26 à Rennes, 25 à Nice, 23 à Biarritz. 20 à Brest et 17 à Cherbourg.
Merci beaucoup, pays.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour, l'info plus près de vous. Nous partons aujourd'hui pour Saint-Viaud, près de Nantes, où un paysan boulanger échappe à l'inflation en cultivant son blé et en fabriquant sa farine lui-même.
Pratique. Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour.
Dominique, effectivement, ne connaît pas la flambée des prix des matières premières qui touchent la profession.
Oui, dans sa ferme pour faire du pain cuit au bois, Dominique Grandjouan cultive son blé, moue sa farine et fabrique même son levain. Il achète donc uniquement le sel. Dominique nous fait visiter son moulin qu'il a fabriqué lui-même et qui lui permet de moudre 12 tonnes de farine par an.
Il ne faut pas s'attendre à un moulin avec des ailes et tout ça. Hein. Parce que c'est un moulin à meule de pierre. Ça fait vraiment une farine très fraîche.
Alors d'où vient le blé?
Le blé, bah, c'est moi qui le cultive. C'est que des variétés anciennes. Et là, j'ai mis 6 hectares et demi en blé cette année.
De ce blé, vous en faites donc de la farine et la farine?
Je m'en sers pour mes pains.
Donc après, la confection du pain, ça se passe à la boulangerie qui est de l'autre côté de la cour.
C'est ça, tout se fait ici.
Alors il suffit de marcher 40 mètres, de traverser la cour de la ferme pour entrer dans le laboratoire où la pâte à pain est pétrie, enfournée dans un four en brique, puis cuite au bois.
Il va pouvoir enfourner les pains, ils vont cuire naturellement, c'est une chaleur descendante. Comme il y avait auparavant, il y a 100 ans, quoi, hein, ça se passait que comme ça. Et, il fait 2 mètres de profondeur sur 1 mètre de large, qui pesait, parce que c'est un four à chaleur directe en bois, donc j'ai même pas de coût économique sur le prix de l'énergie.
C'est le modèle économique rêvé. Dominique n'a pas subi les augmentations de ces derniers mois?
Non, en produisant donc tout sur place, le blé, la farine, le levain et sans four électrique, eh bien, le paysan boulanger maîtrise donc tous ses coûts.
Je gère comme je veux, je n'ai pas besoin d'attendre que le cours des blés soit important ou pas, je m'en fiche complètement.
Et ça vous revient à combien un kilo de farine?
Je pense à 75 centimes peut-être. Je l'achèterai certainement à 1,30€ dans une meunerie, le kilo.
Et là, alors que tout augmente, vous justement, vous regardez ça de quel œil?
Ça me donne raison sur le choix stratégique que j'avais choisi. Moi, ce que je voulais, c'était vivre vraiment pleinement de mon activité, en autonomie et quelque chose qui soit sain.
Des pains délicieux hein, qui se gardent donc facilement une semaine, vendus 4,90€ le kilo, vendus ici à la ferme mais aussi sur des marchés et dans des AMAP. Et puis à court terme, Dominique veut aussi planter sur ses terres de l'épeautre, du seigle et du sarrasin pour proposer plusieurs sortes de pains à ses clients, toujours en échappant à l'inflation.
Et en plus, ça donne faim. Mathieu Lopineau, merci beaucoup.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans une seconde, on va donc revenir avec Cindy Hubert sur la condamnation ici hier par la justice de Montpellier de Mohamed Aouas. À tout de suite.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
C'est évidemment un drame pour cette famille et un grand gâchis. Moi, je veux avoir une pensée pour sa femme, comme d'ailleurs pour l'ensemble des victimes de violences conjugales. Je veux avoir une pensée pour leurs deux enfants.
La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ce matin concernant la condamnation hier de Mohamed Aouas, le pilier du 15 de France, a écopé d'un an de prison ferme pour violences conjugales, mais sans maintien en détention. Et c'est ce qui nous pose question en fait aujourd'hui. Sa femme hier est venue le soutenir au tribunal. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Agnès.
Et c'est vous hein, qui l'avez rencontré, Imane, c'est son prénom, et vous avez suivi l'audience avant de pouvoir lui parler.
Vous voyez, Imane Aouas, que j'ai rencontrée hier soir alors qu'elle attendait son mari devant la prison de Villeneuve-les-Maguelones, est une femme de 30 ans qui paraît équilibrée, qui semble avoir la tête sur les épaules et qui ne ressemble absolument pas à une femme enfermée dans le foyer familial. Elle a, ces dernières années, effectué de nombreux voyages en France et à l'étranger avec ses copines. Elle a assuré hier à la barre qu'elle n'avait eu aucune pression pour venir témoigner et que dans sa vie avec son mari, elle a toujours été libre de ses faits et gestes, hormis tout de même pour ce qui est de la cigarette que Mohamed ne supporte pas. Imane Aouas tout de même soulagée hier soir après la libération de son mari.
Je suis très contente de le retrouver.
Vous avez vécu comment cette audience?
Très dur. Vraiment, ça a été un enfer. 4 jours à pas dormir, pas manger.
Qu'est-ce qui a fait qu'il ne sera pas en prison à partir de ce soir?
Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
Il y a deux choses. Il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez. Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
C'est ça. La blessure, forcément, oui, elle restera. Mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs.
C'est sa dernière chance.
Sa dernière chance. Il peut être très reconnaissant.
Alors, quand même, hier, lors de l'audience, Patrick Hisson, la procureure a parlé de phénomène d'emprise pour cette jeune femme et surtout de risque de réitération.
C'est vrai, la procureure a parlé, pour être précis, d'un risque de réitération des faits qui est majeur. Car, dit-elle, M. Awas est impulsif, qu'il n'a pas changé, que ses excuses assorties tout le temps d'un « mais » ne sont pas crédibles, que les images de l'agression, je le précise, que nous n'avons pas vues à l'audience hier, sont très violentes. C'est ce que dit la procureure, qui a aussi douté de la sincérité des propos d'Iman Awas que vous venez d'entendre. Car, assure-t-elle, cette femme a peur et c'est la raison pour laquelle elle est venue témoigner.
C'est la singularité de ces audiences, Cindy Hubert.
Bah oui, évidemment, puisque dans ces audiences, et peut-être encore plus qu'ailleurs, on touche à l'intime, on le voit au procès. Les auteurs chuchotent, les victimes ont souvent du mal à parler. On touche aussi au fonctionnement de couples complexes, souvent plein de contradictions, avec des phrases comme « Oui, il m'a battu, mais c'est un bon père, le père de mes enfants. Oui, il m'a battu, mais il est adorable quand il n'a pas bu. » Et puis, les magistrats n'ont pas un temps infini pour essayer de saisir ce qui se joue. Il faut essayer d'évaluer la dangerosité de monsieur, écouter aussi ce que madame a à dire, parfois... L'emprise saute aux yeux, mais ce n'est pas toujours simple en quelques minutes.
Vous assistez à ces audiences depuis des années, Cindy, et dans la plupart des cas, les victimes ne portent pas plainte.
Oui, ou alors elles ont porté plainte, mais elles la retirent à l'audience, ou bien encore, elles ne viennent même pas tout court. Très souvent aussi, les victimes n'ont pas voulu faire constater leurs blessures dans une unité médico-judiciaire, ce qui rend encore plus compliqué le travail des magistrats. Et puis quand elles ont la parole, ce n'est pas simple non plus. Beaucoup excusent leur conjoint, minimisent les faits. Je me souviens de cette dame qui ne faisait que répéter « Il m'a simplement poussé » alors que les coups avaient été tellement forts qu'elle en avait vomi. Et le mari qui expliquait en gros qu'il l'avait giflé pour son bien, pour la calmer, parce qu'elle était hystérique.
Alors je ne sais pas si c'est vous, Cindy, ou Patrick qui va pouvoir répondre. Moi je me pose une question concernant l'absence de mandat de dépôt, sachant que Mohamed Awas a déjà été condamné par le passé, pas pour violence conjugale, mais condamné à du sursis. Ça ne joue pas ?
Alors Patrick Hisson va pouvoir le confirmer, mais les faits dont on parle, ce sont des faits anciens, Patrick.
Oui, les précédentes affaires remontent à 9 et 10 ans. Et ce qu'il faut dire, c'est que depuis 9 ans, dans sa nouvelle vie de rugbyman professionnel, eh bien, Mohamed Awas s'est plutôt bien comporté et qu'il n'y avait surtout aucune violence familiale de constater durant cette période. Et que toute la famille de Mohamed Awas et la famille de sa femme, Iman, était présente à l'audience, qu'elle fait bloc pour dire ensemble qu'il ne s'est absolument rien passé dans le cadre familial. C'est difficile à confirmer d'une façon catégorique, mais voilà peut-être l'une des raisons pour laquelle, effectivement, il a été remis en liberté pour rejoindre dès hier soir sa femme.
La procureure a parlé d'emprise. Il y a une autre notion qu'on connaît peut-être moins, le contrôle coercitif.
Oui, alors je vais essayer de vous donner des exemples pour que vous compreniez ce que c'est. Par exemple, l'homme qui interdit à sa femme de mettre du vernis, des jupes, de voir des amis, qui l'oblige à répondre tout le temps au téléphone pour vérifier où elle est. Une sorte de prison conjugale qui est difficile, parfois même totalement invisible à voir de l'extérieur. Et ce genre de stratégie, les magistrats y sont habitués, ils ont l'habitude, ils les connaissent. Mais ça rentre pas dans les cases. Quand une femme se fait confisquer sa carte bancaire, par exemple, c'est pas du tout du harcèlement, c'est pas non plus des violences psychologiques. Alors, est-ce qu'il faut faire entrer cette notion dans le code pénal ? Tout le monde n'est pas d'accord, ni parmi les associations, ni au gouvernement d'ailleurs. Mais en tout cas, Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme, vient de lancer un groupe de travail sur le sujet.
Et c'est le sujet du film « L'amour et les forêts » avec Virginie Elfira. C'est exactement ce sujet, le contrôle coercitif.
Et je me fais... Valérie Donzelli, hein,
je Exactement. Crois. Je me faisais la réflexion ce matin, parce que nous sommes dans ce studio, vous êtes trois femmes et je suis le seul homme. Et je me disais que si j'avais entendu il y a 15 ans le témoignage de cette femme, Iman, je me serais dit, elle est formidable, c'est la femme qui pardonne, c'est une sainte, etc. Et aujourd'hui, le regard que nous posons sur ce type de témoignage est complètement différent.
Et le regard que porte aussi la justice, puisqu'elle aussi, il y a encore quelques années, la justice n'aurait prononcé sans doute qu'un rappel à la loi. Oui. Et la justice aujourd'hui est beaucoup plus sévère envers ce genre de fait.
Mais je ne sais pas si les femmes que vous êtes partagent ce sentiment sur ce témoignage qu'on a entendu ce matin, mais c'est très frappant. Nous ne sommes plus les mêmes sur ces sujets-là. Il est 12h21, à tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Votre vie.
Votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Mais que c'est original, Pascal.
De plus en plus de femmes pratiquent un sport de combat, dont la boxe. Elles montent sur le ring pour différentes raisons. Avec nous en studio aujourd'hui, Katel, coach de boxe depuis 10 ans. Vous exercez actuellement au Battling Club Paris. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Et vous êtes venue avec l'une de vos élèves, Agathe, pratiquante régulière. Bonjour Agathe.
Bonjour à tous.
Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'apporte la boxe. Katel, tout d'abord, vous entraînez principalement des femmes. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme ? Il y a de plus en plus de femmes ou ça a toujours été le cas finalement ?
Alors on a vu une explosion hein, de l'intérêt pour la boxe. Nous on fait entre nous avec Agathe particulièrement de la boxe pied-point. Qui est beaucoup apprécié de la part des femmes. Et oui, ça fait déjà quelques années. Il y avait une mode au début sur la boxe fitness, la boxe pour garder un corps ferme et tonique. Et désormais, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. La pratique de la boxe chez les femmes, elle est beaucoup plus psychologique. Mais je pense que Agathe pourra en parler beaucoup mieux que moi.
Oui, justement, Agathe, vous vous y êtes mise. Pourquoi ?
Alors moi, c'était j'ai commencé en 2020, un petit peu avant le confinement. Bah avant tout, c'était sur les conseils d'amis, femmes et hommes. Moi, je me voyais pas forcément en boxe anglaise uniquement avec les poings. J'avais envie de faire travailler les jambes. Au départ, c'était pour gérer le stress à cause des journées chargées au boulot. Ça permettait d'évacuer et puis en fait un véritable coup de cœur pour la technique parce qu'en fait il y a beaucoup de techniques. On apprend aussi des enchaînements, donc ça fait aussi travailler la mémoire, la coordination. Oui, ça muscle puisqu'après les confinements, j'ai perdu quelques kilos, donc reconnaissance éternelle au coach. Et puis voilà, ça apporte beaucoup résilience, gestion du stress. Et c'est aussi un espace de sororité avec beaucoup de bienveillance.
Donc sororité, voilà. C'est-à-dire que vous ne combattez qu'avec des femmes ?
Alors moi, j'ai commencé effectivement dans un groupe filles débutantes. Mmh. Et en fait, non, voilà, depuis maintenant, quelques temps, il y a aussi des assos avec des hommes.
Bon, évidemment, ceux qui nous écoutent se disent, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que vous êtes protégé ? Est-ce que vous pouvez vous faire mal ? Des coups à la tête, ça peut être terrible. Est-ce qu'on peut rassurer tout le monde ?
Alors, on peut rassurer tout le monde.
Casque ?
Alors, pas casque, on l'utilise essentiellement en boxe anglaise. Il faut savoir que la pratique de la boxe française, elle peut se faire en combat, donc la puissance est autorisée, ou à la touche, en assaut. Et nous, on le pratique sous forme d'assaut. Donc c'est vraiment à la touche, il n'y a pas de puissance.
Donc les coups ne portent pas.
Les coups ne portent pas, bon. On touche l'adversaire sans le blesser.
Je vois que Agathe est jeune, évidemment, mais est-ce qu'à 60 ans, vous avez des clients ?
Eh bien oui, j'ai des pratiquants.
Je sens que ça vous intéresse.
J'ai ramené des flyers pour Pascal. On négociera un petit abonnement préférentiel.
Non, mais est-ce qu'on peut... par exemple, le client que vous avez, l'âge le plus ancien, quel âge a-t-il ?
Alors, en pratiquant de boxe française, d'ailleurs, c'est une femme. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais bonjour à Josette. Josette, elle a 68 ans, 70 ans, je crois.
Et elle en fait depuis longtemps ?
Non, elle n'en fait pas depuis trop longtemps. On la voit pas forcément régulièrement, mais c'est un plaisir de la voir parce qu'elle est plus énergique et dynamique.
Donc, on peut s'y mettre à tout âge.
On peut s'y mettre à tout âge.
Il faut des conditions physiques particulières ?
Il faut juste préciser s'il y a des petites blessures ou des petites difficultés physiques. Mais non, pratiquer en loisir, c'est vraiment accessible à tous et à toutes, petits ou moins petits.
Combien de fois par semaine, idéalement ?
Bah ça dépend l'objectif. Ça dépend l'objectif. En général,
moi, je suis à 2-3 fois par semaine. Ça défoule bien.
Oh ouais. Vous faites le soir ou le matin ?
Mais c'est le soir justement, après le travail pour évacuer.
Donc vous
avec la tête de son patron.
Exactement. Voilà.
Comment ?
19h, 20h ?
Oui, c'est ça. Du cours à 19, 20h.
Ça dure combien de temps ? Une heure.
Intensif. Bon. Et après, on dort bien.
Ah oui, intensif.
Ouais.
Bon, et vous faites un peu de cardio à côté, peut-être ?
Il y a du cardio. Le Battling Club, c'est ça aussi qui est top. Mmh. C'est qu'il propose des cours de crossfit. Donc, c'est du renforcement musculaire. Ouais. Donc, c'est ça aussi. C'est une bonne ambiance au battling. C'est des coachs qui nous accompagnent, qui nous font progresser au fur et à mesure avec beaucoup de pédagogie et de bienveillance.
Bon, on n'a pas parlé du fait de self-défense aussi qui peut exister dans la motivation.
Bah, en fait, moi, en tant que femme, je sais que ça m'a apporté beaucoup d'assertivité. Ça change la posture, on prend confiance en soi. Donc, ouais.
Il ne faut pas confondre quand même, je me permets, le sport de combat, qui est un sport codifié, hein, qui se pratique dans des règles sportives qui sont bien carrées, avec la self-défense qui permet de se défendre, hein, tout simplement, qui est adaptée à la rue. Et je serais une très mauvaise coach de boxe et une très mauvaise sœur et alliée de dire que la boxe va vous permettre de vous apprendre à vous défendre, ça va vous donner de la confiance en vous. Mais le meilleur sport pour se défendre, ça reste la course.
Partir en courant.
Bon, voilà. Partir en courant.
Pour moi. Allez. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci beaucoup, Agathe, d'être venue parler de la boxe. C'est passionnant. Moi, je trouve, exactement.
Et merci de l'énergie et développée sur ce plateau et toujours, le sourire que vous nous apportez.
Du Battling Club.
C'est où le Battling Club, faut dire?
Alors, le Battling Club Paris, nous avons deux salles. Nous, on vient de la salle du 10e arrondissement qui est située rue de la Grange-Jobel, juste à côté du canal Saint-Martin.
Bien sûr.
Donc, effort et réconfort juste après.
12h28, l'info revient dans une seconde.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi. Le 12-30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et donc à 12h30, sous le soleil, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Agnès Bonfillon.
Une victoire d'étape pour la majorité. Les députés viennent de supprimer en commission à l'Assemblée nationale l'article clé d'une proposition de loi, la loi Liotte, abrogeant le recul de l'âge de départ à la retraite. Le texte dont l'examen se poursuit n'est pas enterré pour autant. Jordan Bardella demande des excuses à Elisabeth Borne. Il juge sa déclaration sur le Rassemblement national héritier de Pétain inqualifiable. Direction Roland-Garros en fin de journal, bien évidemment pour les matchs en cours. La question du jour sur RTL.fr. Faut-il continuer d'augmenter le prix du paquet de cigarettes, ne serait-ce que pour convaincre les récalcitrants? Et puis, votre rendez-vous culture à ne surtout pas manquer. Tout à l'heure, Riyad Satouf sera dans ce studio avec nous pour la sortie des 8e cahiers d'Esther, cette jeune adolescente de 17 ans qui existe vraiment. Depuis l'âge de ses 9 ans, elle confie ses tranches de vie à l'auteur qui en fait des bandes dessinées drôles et touchantes. Un vrai succès en librairie. Et puis, nous parlerons d'Al Pacino. Nous avions déjà évoqué cas Robert De Niro, 79 ans, presque papa. Al Pacino le sera également, mais à 82 ans.
El Papacino, sans
joli,
doute.
Joli, oh là là.
Vouliez-vous dire Non mais l'auteur, qui a eu ce bon mot? Prenez la parole.
William G.
William Galibert.
Enchanté.
Je ne vais pas piquer les mots d'auteur.
Ça ne vous ressemble pas, Pascal.
De mes confrères, ça ne me ressemblerait pas. On en parlera à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 30-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30 si vous êtes un père de 80 ans. Un père qui, évidemment, va avoir un enfant.
Au 32-10,
des pères de 80 ans, il y en a quelques-uns.
Effectivement. La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Déjà un indice?
Oui, ça reste toujours très beau au nord et orageux au sud. Et c'est une journée plutôt estivale côté température.
Merci beaucoup, Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL midi.
On en a beaucoup parlé hier, Elisabeth Borne était recadrée très sèchement par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Le président de la République n'avait pas apprécié sa sortie sur le Rassemblement national héritier de Pétain. Ce matin, pourtant, depuis la Slovaquie, il lui renouvelle sa confiance. Écoutez.
Quant à ce que j'ai pu entendre sur Madame la Première ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai un mode de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres depuis 6 ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort, et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par médias interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Donc elle a toute ma confiance, et voici les clarifications attendues sur l'extrême droite.
Elle a toute ma confiance, on entend ces mots de soutien. Mais William Galibert, bonjour à vous.
Bonjour.
L'épisode d'hier va quand même dans le sens de ceux qui voient le divorce du couple exécutif à plus ou moins long terme.
Oui, ils savent tous les deux qu'ils ne vont pas vieillir ensemble, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Ce qui est notable, c'est que le président ne cherche plus vraiment à masquer son agacement ou ses désaccords avec Elisabeth Borne. On pourrait même dire que maintenant, il cherche à les montrer, comme s'il nous guidait un peu vers la fin de l'histoire. Il était furieux quand elle a promis de ne plus utiliser l'article 49.3 pour faire passer des lois. Et il l'avait fait savoir à l'époque par presse interposée, contrairement à ce qu'il vient de dire à l'instant à Bratislava. Hier, rebelote donc, il lui a fait la leçon sur le Rassemblement National en disant en clair, ça sert à rien de les traiter de fachos, il faut les combattre sur le fond des dossiers. Il l'a fait devant l'ensemble des ministres, en visant clairement Elisabeth Borne, mais sans jamais la nommer, et elle n'a pas bronché. Le CDD à Matignon touche à sa fin, vous ne trouverez personne pour vous dire l'inverse. Maintenant, est-ce que c'est une question de semaine ? une question de moi, et puis on met qui à la place d'Elisabeth Borne? Même le président n'a peut-être pas toutes ses réponses en ce moment, donc il changera, oui, mais il le fera le moment venu, le moment voulu, quand il pensera que ça lui sera utile. Et d'ici là, Elisabeth Borne a déjà montré qu'elle savait encaisser et qu'elle allait continuer. Dès demain, elle sera à Angers et à Laval pour visiter une crèche et une agence Pôle emploi.
William Galibert du service politique de RTL. Jordan Bardella lui demande des excuses à Elisabeth Borne ce matin sur RTL. Le président du Rassemblement national estime que lorsqu'on est Premier ministre, je cite, on ne se comporte pas comme un chef de gang.
Le bout du tunnel est-il pour bientôt peut-être ? Notre économie envoie certains signes positifs ?
Oui, Martial Liu, bonjour.
Bonjour.
Ça y est, est-ce que l'inflation, en tout cas, on va commencer par elle, parce qu'elle fait beaucoup parler, elle fléchit enfin ?
Ben oui, on n'avait pas vu un tel niveau depuis avril 2022, donc c'est une bonne surprise. Alors attention, hein, la vérité, c'est que la hausse ralentit. Les prix augmentent quand même de 5,1% par rapport au mois de mai 2022, donc faire ses courses coûte toujours plus cher qu'il y a un an, mais le mois dernier, on était sur une hausse de 5,9%. Donc ça s'infléchit, l'accalmie sur les prix s'installe, notamment grâce au cours des matières premières, pétrole et gaz, qui sont revenus au niveau d'avant Ukraine. Vous le voyez à la pompe à essence, hein, tout simplement. C'est ce qui explique très largement.
On a toujours du mal à comprendre, puisque la guerre continue.
Oui, mais simplement, il y a moins de spéculation aujourd'hui sur toutes les valeurs pétrolières. Avant, il y avait la peur de ne plus en avoir du pétrole, puisqu'il venait notamment de cette région-là. Et là, cette peur-là s'est évanouie un peu. Alors, dans le chariot de course aussi, ça se stabilise, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est la montée en puissance du panier anti-inflation avec les ristournes des distributeurs de certains de leurs produits de première nécessité. Donc en conclusion, on peut penser qu'on amorce une sortie de la bulle inflationniste qu'on connaît depuis 18 mois, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on ne retrouvera pas les prix d'avant 2019, ça sera toujours un tout petit peu plus haut.
Merci beaucoup Martial Liu.
RTL Midi. Les nations se disent très inquiètes par la promulgation d'une nouvelle loi en Ouganda.
Oui, les Nations Unies, une loi anti-homosexualité considérée comme l'une des plus répressives au monde. Le texte prévoit de très lourdes peines de prison, voire carrément, Gali Bonin, la peine de mort.
Oui, c'est la mesure choc de ce texte. La peine capitale pour les homosexuels qui ont déjà été condamnés. Jusqu'à maintenant, ils risquaient la prison à vie en Ouganda. Le texte prévoit aussi jusqu'à 20 ans de prison pour les personnes et associations qui font la promotion de l'homosexualité. Ce sont les lettres du texte. Cette loi soulève l'indignation de la communauté internationale et le ministre de la Justice, Norbert Mao, se justifie.
L'Ouganda n'est pas homophobe. Le président ougandais n'est pas homophobe non plus. Ce qu'il dit, c'est que ce qui est privé doit le rester.
Même si la peine de mort n'est plus pratiquée depuis plusieurs années dans le pays, des organisations de défense des droits humains ont déposé un recours. Pour Ariel Jean Urbain, président de l'association de défense des LGBT Afrique Arc-en-Ciel, les arguments du ministre sont irrecevables.
C'est une réaction d'indignation et d'incompréhension. Plutôt que d'avancer et de progresser comme les autres pays du monde, mais en train de faire 15 000 pas en arrière.
70 pays interdisent encore l'homosexualité dans le monde et près de la moitié d'entre eux se trouvent en Afrique.
Merci Gali Bonin du service étranger de RTL. C'est un peu l'histoire de Pierre et le Loup qui a eu lieu ce matin en Corée du Sud. Grosse panique à Séoul après un ordre d'évacuation envoyé par erreur aux habitants, et ce après le lancement d'une fusée par la Corée du Nord. Beaucoup se demandent si les autorités seront en capacité de bien réagir en cas de réelle attaque.
Ce mercredi 31 mai, la journée mondiale contre le tabac.
La proportion des fumeurs est globalement en baisse depuis des années. Forte augmentation du prix, généralisation de la e-cigarette, de nombreuses mesures ont eu de l'effet, et maintenant alors, il y a toujours des fumeurs. 12 millions en France, dont un quart fume quotidiennement. Alors, que faudrait-il de plus pour les convaincre? Eh bien, Vincent Serrano, vous êtes allé poser la question aux principaux intéressés.
À la pause cigarette, où je demande à Benoît entre deux bouffées si une nouvelle augmentation du prix peut le faire arrêter.
Je pense que le prix, ça... Les gens en sont revenus, en fait, que ça coûte cher, et puis, ben, c'est comme ça. Quand le paquet est passé à 5 euros il y a quelques années, ah, ça passe 5 euros, j'arrête. L'appareil avec les 10 euros, ça n'a jamais diminué, enfin... Pas autant que je pense qu'il espérait. Quoi.
Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'arrêter?
Bah si le tabac est tout simplement interdit en France, ouais, bah c'est sûr que ce serait beaucoup plus compliqué, mais je pense que l'État il a à perdre évidemment là-dedans.
Un paquet à 15-20 euros ne freinerait d'ailleurs aucun des fumeurs que j'ai interrogés ce matin. Fumeurs de longue date qui ne comptent toujours pour arrêter que sur une mauvaise nouvelle.
Ah bah, l'effet peut-être d'avoir dans la famille qui a un problème, un cancer de poumon, peut-être, ça peut déclencher quelque chose.
Mais sans ça ?
Sans ça, je pense pas. C'est vraiment l'habitude, c'est l'habitude que j'ai fait dans le travail, donc du coup, bah, voilà, avant de travailler, c'est le rythme.
Ouais, pour d'autres, l'espérance d'une bonne volonté.
Bah quand j'en aurai envie. Quand je serai décidé, en fait. Je suis pas accro, mais... Enfin, si, peut-être, mais...
Cigarette électronique remboursée par la sécurité.
J'ai déjà essayé. Et au final, je fume les deux, donc aucun intérêt. Toujours plus.
Voilà, Caroline et Chris, que vous venez d'entendre, dépensent dans leur dépendance en moyenne chaque mois 300 euros. Je vous laisse faire le calcul depuis qu'ils ont commencé à fumer il y a 15 ans.
Le reportage de Vincent Serrano pour RTL. Merci Vincent. Direction Roland-Garros.
RTL, Roland-Garros 2023.
Et c'est avec Arthur Pereira que l'on fait un point sur les matchs en cours.
Bonjour à toutes et à tous. En ce moment même, la femme de Gaël Monfils, Celina Svitolina, revient dans son match après avoir perdu le premier set 6-2 face à l'Australienne Storm Hunter. Elle empoche le deuxième set 6-3 et elle break d'entrée dans ce troisième set 2-0 pour l'Ukrainienne. 6 Français attendus aujourd'hui sur les courts ensoleillés ici, Porte d'Auteuil. D'abord, sur le central, la tête de série numéro 5, Caroline Garcia face à Anna Blinkova. Sur le Simone Mathieu, on retrouvera Léolia Jean-Jean, celle qu'un de ses entraîneurs surnommé Mozart à ses débuts affronte Elina Avanaistan. Et du côté des hommes, trois joueurs français. D'abord Hugo Humbert sur le court 14, suivi par un autre français, le jeune Lucas Van Haché, lui qui s'était imposé sur ce même court lors du premier tour en 3-7. Et enfin, deux affiches à suivre de très près. Lucas Pouille opposé à Cameron Norrie, le Britannique vainqueur en 5-7 face à Benoît Paire au premier tour. Et puis, ça risquera d'être très compliqué pour Corentin Moutet, classé 61e mondial. Le français affronte la tête de série numéro 7, le russe Andrei Rublev.
Arthur Pereira en direct de Roland Garros pour RTL. La météo avec vous, Peggy Broche, de nouveau orageux cet après-midi.
Oui, dans le sud. Alors en plus, j'ai reçu un message parce que je disais tout à l'heure qu'il y aura des orages entre le sud-ouest, au sud de la Garonne, en allant vers les Alpes et la région PACA. Et apparemment, il y a déjà des orages du côté de Carcassonne, mais pas de pluie. On me dit, la nuit est tombée. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, apparemment pas de soleil pour vous. Et de toute façon, sur tout le sud, on va retrouver, comme les jours précédents, un temps orageux. Avec localement de la grêle, seul le pourtour méditerranéen sera épargné. Et puis au nord, jusqu'au Bordelais et le sud de l'Alsace, là, on a plein soleil avec encore ce petit vent de nord-est qui peut amener une petite fraîcheur. Les températures, 17 à 24 près de la Manche, jusqu'à 24 à 29 degrés ailleurs.
Merci beaucoup, Peggy.
On parle d'Al Pacino, 83 ans dans une seconde. Est-ce bien raisonnable? Il va avoir un enfant avec une femme qui a 29 ans.
Bah oui, donc ça fait combien, 53 ans de différence?
J'arrive plus à compter là, ce stade-là.
Al Pacino, c'est l'amour.
C'est pas la différence d'âge qui est problématique, c'est l'âge à laquelle on fait l'enfant.
Peut-être. Quand t'as 53 ans de différence d'âge, forcément t'as atteint un certain âge. Je sais pas si ce que je dis est très clair d'ailleurs, mais il est 12h42. On va préciser notre pensée dans une seconde. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
Mon fils a son propre appartement maintenant et il est programmateur informatique. Il crée des jeux vidéo et leurs scénarios.
L'acteur américain et ma fille Olivia, Al Pacino, interrogé en 2019, il évoquait ses jumeaux nés en 2001 alors qu'il avait 62 ans. Eh bien, il va devenir père à nouveau pour la quatrième fois à 83 ans.
Et ce n'est pas fini peut-être.
On peut se demander si la paternité tardive est une nouvelle tendance chez les stars hollywoodiennes, puisqu'en début de mois, souvenez-vous, on évoquait Robert De Niro qui lui-même était devenu papa pour la septième fois à 79 ans. Alors Agathe Landé, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes spécialiste des questions de santé sur RTL. Qu'en est-il chez nous? Les Français ont-ils eux aussi tendance à avoir des enfants de plus en plus âgés?
Alors en France, l'âge moyen des papas est de 31 ans. C'est plus âgé que chez les femmes qui accouchent en moyenne à 28 ans. L'écrasante majorité des nouveaux papas sont âgés entre 25 et 40 ans. Mais si on regarde du côté des plus âgés, en 2015, l'INSEE indiquait que 17% des bébés avaient un père de plus de 40 ans. Et selon l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, les pères de plus de 45 ans ne représentent que 5% de nos naissances. C'est quand même trois fois plus qu'en 1980. Et si on regarde regarde les papas de plus de 55 ans, cette fois-ci, on tombe à moins de 1% de nos naissances. On parle donc d'une toute petite minorité qui ont des enfants à plus de 55 ans. En 2013, l'INSEE avait répertorié en France 100 hommes devenus pères entre 55 et 60 ans et seulement une dizaine à plus de 60 ans.
Ah, ça, c'est pas beaucoup. Je pensais qu'il y en avait davantage.
100, non, c'est très, très peu.
100 hommes de plus de 55 ans, je suis très étonné. Auditeur de RTL, Daniel a 77 ans. Il nous a appelé pour témoigner, car lui aussi a eu un fils sur le tard, comme on dit. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Vous aviez déjà 3 enfants, je crois. Il y a 7 ans, vous avez accueilli un fils. Votre petit a aujourd'hui 7 ans, sa mère 34. Est-ce que vous avez souffert de ces écarts d'âge? Avez-vous ressenti qu'on vous regarde peut-être avec surprise dans la rue, en se demandant si vous étiez plus le grand-père que le père?
Bah, pas du tout, moi. J'avais la chance quand j'ai conçu mon fils. Enfin, c'est ma femme qui m'a dit, toi, tu as déjà 3 enfants, moi, j'en ai pas, je veux un enfant de toi. Et quand j'ai accepté, bon, j'avais la chance d'avoir la soixantaine pétaradante, comme on dit. Et donc, ça, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de remarques, bon, sauf les gens de ma famille ou des amis intimes qui m'ont dit, est-ce que c'est bien raisonnable? Voilà, c'est tout.
Et vous trouvez que c'est bien raisonnable?
C'est complètement raisonnable. J'ai bien calculé. Bon, dans ma famille, on est tous un peu centenaires. Et puis, bon, tout se joue pour les enfants avant 6 ans. Bah, il a 7 ans maintenant, donc il est bien dans ses baskets. On a une
Et
relation.
Vous êtes bien dans vos chaussons.
Ah, complètement. Alors là, je suis à l'aise, ça marche bien, j'écris, je dessine, voilà. Donc, et on a une relation fusionnelle. Avec le sourire, hein, bien sûr, je ne suis pas complètement allumé, mais je l'appelle mon jumeau cosmique.
Bon, ah oui, il y a quelque chose quand même, mon jumeau cosmique, parce qu'elle doit être, ça, elle doit être contente, votre femme, lorsqu'elle entend ça.
Bah oui, mais comme elle était, elle avait encore de la formation à faire, et puis bon, elle a profité un peu de sa jeunesse. Donc moi, j'ai pas, même si je suis un peu plutôt comme Robert De Niro, un peu en caractère et en physique, mais j'ai pas détesté m'attribuer les tâches ménagères, les soins du bébé. Donc j'ai été aussi un peu la maman. Oui.
Daniel, on a une petite question concernant. C'est vrai qu'on se dit alors très bien. Avoir un enfant ne doute pas de l'amour que vous lui portez, etc. Mais forcément, la vie fait que vous risquez de disparaître alors qu'il sera encore très jeune. Est-ce que vous y avez pensé ?
Oui, bien sûr, il le sait très bien, je lui ai tout expliqué. Alors je lui donne ce dont je dispose encore, je lui donne du temps, je lui donne de l'amour, il me le rend et bon, il m'accompagne actuellement sur le chemin vers la lumière finale vers laquelle nous allons tous. Voilà. Donc bon, on peut penser que c'est peut-être un peu égoïste, oui, mais j'ai passé ma vie à être au service des autres, à penser aux autres, beaucoup d'humanitaires en Afrique, et maintenant je pense un peu à moi en pensant beaucoup à lui.
Eh ben, c'est une philosophie de vie, pourquoi pas, qui peut mener loin. Merci en tout cas, Daniel. Il s'appelle comment, votre garçon?
Il s'appelle Hugo.
Hugo. Bah écoutez, bonne chance et longue vie à Hugo et à Daniel, bien sûr. Il est 12h49, laissez-vous tenter dans une seconde. Et je ne doute pas que ce Al Pacino, 83 ans, qui sera papa, fasse réagir nos auditeurs. A tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL midi jusqu'à 13h. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Ma meilleure amie, c'est Eugénie.
Salut, ça va, wesh ?
Eugénie, elle dit toujours wesh. De toute façon, je suis assez populaire. J'ai plein d'amis. Notre maîtresse, Madame Moret, elle est trop, trop moche.
Bonjour, madame.
Allez, on se dépêche, là.
À l'école, c'est pas comme à la maison. On peut dire tous les gros mots qu'on veut.
Quel bonheur de se plonger dans la vie d'Esther et quel bonheur de recevoir Riyad Satouf. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Alors, petit rappel des épisodes précédents. Esther est la fille d'un couple de vos amis dont vous racontez depuis 8 ans maintenant les aventures en classe, en famille, avec ses copains. Et chaque année a donné lieu à un album. Le nouveau sort demain.
Il raconte l'année des 17 ans d'Esther. Alors, celle du passage en première, du bac de français. Enfin, c'est compliqué cette année-là. Et elle accepte toujours autant de vous raconter sa vie, Esther.
Alors, c'est drôle, mais plus le temps passe, plus le projet l'intéresse, en fait. C'est vrai que quand je l'ai rencontrée, moi, elle était. C'était une petite fille très volubile qui me parlait de la réalité, de ce que c'est qu'être un enfant de manière très libre et assez unique pour un enfant. Souvent, les enfants sont un peu renfermés ou ne savent pas vraiment comment parler de leur quotidien. Mais elle s'intéresse. C'est pas du tout à cette bande dessinée en fait, ça la faisait vaguement rigoler. Mais et avec les années, cette série a eu de plus en plus de succès et ce succès lui est arrivé dans sa vie. On lui offrait les cahiers d'Esther pour son anniversaire sans savoir qu'elle était la vraie Esther, par exemple. Et donc peu à peu, elle s'est.
Est-ce qu'elle le dit d'ailleurs qu'elle est la vraie Esther?
Non, alors pas trop. C'est des fois, à certaines de ses copines, elle va le dire. Enfin, moi, je lui dis, elle peut le dire. Je veux pas qu'elle grandisse avec un secret et qu'elle devienne psychopathe. C'est pas l'idée. Mais
c'est vrai que ça ferait un bon album. Aussi.
Ce serait. Mais c'est vrai que voilà. Et aujourd'hui, cette espèce de célébrité, parce que par exemple, il y a des chanteurs, des chanteuses à succès. Qu'il adore. La chanteuse Angèle est fan des Cahiers d'Esther. Elle adore Angèle. Donc, elle a l'impression, comme ça, d'être elle aussi une vedette. Et donc, plus le temps passe, plus elle s'intéresse à cette BD. Elle note des histoires, elle me raconte des trucs et tout. Mais ça va bientôt s'arrêter parce qu'on a dit qu'on s'arrêtait aux 18 ans.
Et ah, donc, c'est définitif.
Ah oui, c'est. Ouais, ouais.
Ça, c'est l'avant-dernier.
Ouais, je me suis dit.
Oh, moi, je crois pas ça.
Ah bon?
Ouais, parce que ça marche tellement.
Si Esther vous supplie, en fait, c'est le
public. Mais c'est le public.
Le public 1 700 000 exemplaires vendus déjà hein, des Cahiers d'Esther, c'est un énorme succès.
Le public
succès.
Va vous demander de poursuivre jusqu'au mariage, moi.
À bon, Pôle emploi.
Vous avez un secret pour obtenir d'Esther les confidences que vous obtenez?
Alors, honnêtement, non. Et il n'y a pas vraiment de secret. Et surtout, ce ne sont pas vraiment des confidences. Parce que les Cahiers d'Esther, ce n'est pas un journal intime d'une jeune fille du tout. Moi, ce que je veux, c'est les histoires du rien. Enfin, des histoires sans histoire. Ce qui me plaisait avec cette jeune fille, c'est qu'elle n'est ni belle. Enfin, si, elle est assez jolie, mais elle n'a pas de problème dans la vie. Elle n'est pas d'une famille dysfonctionnelle. Elle n'est ni pauvre ni riche. Voilà, elle vit dans un environnement qu'on pourrait qualifier d'à peu près sans intérêt, entre guillemets, c'est des gens qu'on ne voit pas, etc. Et moi, je voulais justement des histoires de ce monde-là. Et tout ce qu'elle me dit, elle le raconte à ses parents. Souvent, parfois, d'ailleurs, c'est son père qui m'appelle, qui lui dit « Ah, tu devrais l'appeler, là. Elle vient de se faire coller, là. » Alors moi, je l'appelle, il me dit « Ouais, c'est des connards, et tout, ils m'ont collé. » Enfin, voilà, mais ce qui est marrant, c'est de raconter la vie de tous les jours des gens qui n'intéressent personne, en général. Quoi. Voilà.
Ça, les auditeurs ont la parole, et c'est tout. Les jours sur RTL entre 13h et 14h30. C'est exactement ça. Et moi, je suis fan de cette émission et d'écouter les gens précisément quand ils disent, je leur dis souvent, qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Ah, bah, je vais me promener, je vais faire ceci et ça. Je suis comme vous.
Mais c'est vrai, le fait d'aller, par exemple, faire des courses.
Oui, mais c'est formidable.
Peut se transformer tout de suite en une aventure qui parle de la société, qui parle des rapports hommes. Enfin, ça parle de tout. Moi, c'est vrai que cette. Étant un auteur, entre guillemets, à succès, je perds pied peu à peu avec le réel. Et donc, le fait d'être en contact avec Esther...
Quand les gens parlent d'eux-mêmes, c'est génial.
Ben voilà.
Voilà. Alors, la vie amoureuse, il y a eu un râteau, visiblement, avec un garçon qui n'était pas très beau. Un râteau.
Non, mais alors, c'est vrai que voilà, elle me parle souvent de sa vie un peu sentimentale avec ses copines, parce que forcément, ça fait partie de la mythologie, de l'adolescence, elles savent pas trop comment se placer dans les rapports sentimentaux, etc. Donc en effet, dans cet album-là, elle s'est construite toute une histoire avec un mec extrêmement moche dans sa classe, en se disant que c'était super gagné, que ça allait être facile, etc. Puis en fait, elle s'est quand même pris un giga râteau. Donc il y a toute une espèce d'épopée avec ce mec. Mais voilà, c'est vrai que ça parle des petits riens, quoi, de la vie.
On parle aussi politique dans cet album, puisqu'évidemment, il y a eu l'élection présidentielle. Et là, alors, Esther, elle est entre un père mélenchoniste, un frère de droite et une mère qui vote blanc. Autant vous dire qu'il y a de l'ambiance, mais elle est paumée, Esther.
Oui, alors c'est vrai qu'elle est, elle se place pas vraiment politiquement. Souvent, moi, je la relance sur ce sujet. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu dirais que t'es plutôt de gauche, t'es plutôt de droite. Parce que moi, alors, les Cahiers d'Esther, c'est une bande dessinée qui passe toutes les semaines dans l'Obs. Et en fait, je t'aurais trouvé ça rigolo. que cette jeune fille, au fur et à mesure de qu'elle grandisse, devienne de droite, par exemple. Mais en fait, pas du tout.
Moi, Clubs, je n'ai pas trouvé ça drôle.
Non, mais
vous
en fait, moi, j'étais
censuré.
Moi, je suis prêt à accepter tout ce qu'elle me dit. Je prends son parti pris. Alors, c'est vrai que son frère, par lui, il est extrêmement remonté. Elle serait plutôt écolo-féministe, un peu comme ses copines, mais en même temps, elle se rend compte, elle a une sorte de vision un peu cynique de l'existence. Elle voit bien un petit peu des fois qu'il y a quand même des dissonances cognitives, des gens qui prétendent des choses et qui font l'inverse, etc. Donc c'est aussi rigolo à raconter.
C'est le premier album des Cahiers d'Esther. Vous avez un joli bandeau puisque vous avez reçu le Grand Prix du Festival d'Angoulême cette année. Ça vous met la pression pour la sortie demain ou pas du tout?
Eh bien écoutez, absolument pas, parce qu'en fait, le fait d'avoir un Grand Prix, c'est un petit peu un prix qu'on donne en général pour les auteurs un peu, ou les autrices qui en sont en fin de carrière. Alors que moi, je suis encore jeune, plein de vie, et je commence à peine ma vie d'auteur, donc je fais comme si c'était pas arrivé.
On peut quand même vous convaincre de continuer les Cahiers d'Esther encore un petit peu. Enfin, il y a une chance que ça, ce soit possible.
Il y aura les 18 ans, puis après on va voir. Mais je pense quand même qu'à 18 ans,
une pétition.
Il va y avoir quelque. C'est ça, on va.
On continue. On pouvait pas nous laisser comme ça.
On verra. Faut profiter de l'instant présent.
Dernière petite question. Elle se censure parfois, Esther. Elle se dit ah non, ça je vais pas le dire à Riyad parce que je. Ben non, merci. Je sais ce qu'ils vont en faire.
Non, j'ai pas l'impression. Au contraire, souvent, c'est plutôt elle qui va me reprocher à me dire mais tu devrais mettre le nom de celui-là, son vrai nom, c'est un connard et tout. Mais je dis non, mais on peut pas mettre le vrai nom. On va avoir un procès. Donc voilà, c'est plutôt moi qui retiens les choses pour que ça reste quelque chose de.
Et elle est associée financièrement au projet.
Très bonne question, Pascal Pro.
Et vous demandez.
Écoutez, oui, bien sûr. C'est allé quand même. Peu, oui, tout à fait.
Les bon. Cahiers d'Esther, histoire de mes 17 ans, ça sort demain. C'est toujours aussi jubilatoire. Merci beaucoup,
Riyad Satouf,
d'être venu nous voir. C'était un honneur de vous avoir dans ce studio.
Et puis, c'était un plaisir parce que, effectivement, écouter les uns et les autres, quand ils acceptent de parler d'eux, parce que souvent, les gens, ils ont un peu de pudeur, ils n'osent pas parler d'eux. Mais si M. Riyad Satouf, par exemple, se met à me parler de son enfance, de ses parents, de ses blessures, de sa. On va l'écouter, bien évidemment. Souvent, les gens n'osent pas, ce qui est bien normal, ils sont un peu pudiques. Et bien, justement, avec les auditeurs, parfois, on leur pose des questions et on les écoute et c'est formidable. À tout de suite.
RTL Midi.